Clan. J'ai le plaisir et l'honneur de vous proposer un nouveau rendez-vous, une émission de science, ou plutôt une émission sur les sciences, ou autour des sciences. Les sciences ont vite fait de nous transporter, tels des touristes hagards, en des mondes étranges où nos intuitions perdent leur marque. Alors, avec des mots simples, les plus simples possibles, mais pas plus simples, nous discuterons de leurs résultats, de leurs applications, mais aussi de leurs implications philosophiques, des idées qu'elles font naître, des questions qu'elles soulèvent, des regards qu'elles inspirent. Notre credo n'a rien de compliqué. Il consiste simplement à penser que la science n'est pas une friche morte truffée d'équations sans âme. Elle est au contraire une authentique aventure intellectuelle, avec son histoire, ses héros, ses problèmes, ses méthodes, et elle est capable d'induire des chocs dans la pensée. Alors chaque samedi à 18h10, avec la complicité de mon invité, nous tenterons de nous rendre les sciences plus familières à nous-mêmes. Cet invité pourra être un scientifique, un philosophe, un artiste, un alpiniste, un écrivain, plus généralement un homme ou une femme. Ensemble, nous évoquerons les sciences tranquillement, comme autour d'un verre, en vertu d'une sorte de politesse de l'esprit. Je ne le savais pas au moment où le titre de cette émission a été choisi, mais il se trouve que la conversation scientifique est l'anagramme de « ce qu'on sait à côté vers l'infini ». J'entends cela, non pas comme une simple coïncidence, mais comme l'énoncé raccourci de l'ambition qui est la nôtre. Par petites touches de science, nous décalerons nos esprits pour qu'ils voient autrement et plus loin. Plus loin, cela veut dire au moins jusqu'aux étoiles, et même jusque dans l'invisible, là où rôdent les particules élémentaires et toutes leurs agitations. Pour notre toute première émission, je voudrais que nous traitions en guise d'échauffement une toute petite question. Cette petite question, c'est celle de la création du monde, ou si vous préférez, de l'origine de l'univers. D'où vient l'univers? Et surtout, d'où vient qu'il y a un univers? Pour la traiter, j'ai invité non pas un physicien versé dans la cosmologie, mais carrément un métaphysicien, Paul Clavier. Bonjour Paul Clavier.
Bonjour Étienne.
Vous êtes philosophe, vous enseignez l'histoire de la métaphysique et la philosophie de la religion à l'École normale supérieure. J'ai toujours eu du mal à comprendre comment on pouvait être à la fois normal et supérieur, mais c'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Vous avez la réputation de ne vous intéresser qu'à de toutes petites questions, parmi lesquelles on trouve le concept de monde, le bien, le mal, et même carrément Dieu. Et si j'ai tenu à vous inviter aujourd'hui, c'est parce que vous avez publié en 2011 un ouvrage intitulé « Ex nihilo ». C'est un ouvrage en deux volumes, et le sous-titre du premier est « L'introduction en philosophie » du concept de création, d'où votre présence ici. Alors ma première question sera celle-ci, qu'est-ce qui peut amener un philosophe à embrasser des questions aussi infernales, des questions qui sont purement métaphysiques et qui donc sont réputées sans solution positive? Vous savez que pour les scientifiques dont je suis, l'adjectif métaphysique a une double signification. Il peut prendre un sens dépréciatif, métaphysique donc frivole, ou bien un sens positif, métaphysique donc profond. Cela ne doit pas vous rendre la vie facile. On doit vous reprocher de toujours vouloir couper les cheveux en quatre, alors qu'il est si commode de faire comme si on était chauve.
J'assume volontiers le label de, non pas de métaphysicien, mais de philosophe qui s'intéresse aux questions métaphysiques, et j'ai de la peine à croire qu'elles aient totalement disparu du champ des préoccupations humaines. Mais en revanche, et là vous avez raison de mettre le doigt dessus, c'est que elles n'ont pas ou très peu d'intersection avec les questions scientifiques. Et malheureusement, trop souvent, on voit renaître des rapprochements ou des collusions ou des mélanges entre l'interrogation proprement métaphysique, question ultime, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, par exemple, hein, et des questions scientifiques, quels sont les premiers états de l'univers, autant que nous puissions extrapoler nos modèles relativistes ou quantiques vers les nanomicro 10 puissance moins 40 et quelques secondes de l'univers. Et la confusion entre ces deux registres est assez catastrophique. Alors, elle n'est pas totalement catastrophique, elle nous donne l'occasion de belles joutes oratoires, d'accusations, vous êtes un créationniste, etc. Non, vous êtes un athée sulfureux, etc. Bon, mais ça ne mène pas à grand-chose.
Ça veut dire qu'il y a toujours une sorte d'amalgame entre le Fiat Lux et le Big Bang?
Oui, mais c'est compréhensible, c'est-à-dire qu'il y a une fascination pour les origines, et je parle à un connaisseur, puisque vous-même, vous avez commis un livre qui s'intitule « Discours sur l'origine de l'univers » et dans laquelle, me semble-t-il, vous distinguez bien les deux questions. La question « D'où vient l'univers ?» qui est une question qui peut être instruite, non sans difficulté, mais par les sciences de la nature, et notamment par la cosmologie, qu'elle soit relativiste, quantique ou unifiée. Et puis la question « D'où vient qu'il y a un univers ?» Et ça, c'est une question métaphysique, et que je sache, il n'existe pas de modèle théorique ou d'observateur ou d'accélérateur de particules qui puisse nous faire assister au passage du rien à quelque chose. On peut bien parler de vide quantique, de fluctuations adiabatiques, mais ça, c'est toujours déjà des structures, aussi complexes soient-elles, même si elles mobilisent des espaces à une dimension, etc. Je veux bien le croire. Hein. Mais
elles sont toujours déjà là.
On explique toujours quelque chose, un état de choses, des propriétés, en fonction de lois, de constantes et d'un état de choses antérieur.
Vous voulez dire que si on prend les mots au sérieux, la question de l'origine de l'univers, c'est d'abord penser l'absence d'univers. Et alors, ensuite, penser la transition entre cette absence d'univers et l'apparition d'une première chose qui serait l'univers.
Oui, à ceci près que, inconsciemment, on projette le schéma temporel d'une cause qui précède un effet. Mais si dans les premiers moments, entre guillemets, de l'univers, la variable temps se comporte d'une façon très très différente, je ne vois pas qu'on puisse continuer à extrapoler régressivement vers le passé, comme disant alors là on est encore, et de toute façon même si on y arrive, alors on est toujours dans le physique, le matériel, et non pas dans le métaphysique. Il n'y a pas de transition entre un néant, un vrai néant, c'est-à-dire un rien du tout, hein, et quoi que ce soit. Et c'est pour ça que je vois mal comment un modèle scientifique sérieux pourrait prétendre mettre en équation Dieu ou le chaos vide, plus je ne sais quoi, égal alors un état de soupe primitive de la matière, espace-temps, énergie, corps, de tout ce que vous voulez. Il y a là deux registres très distincts, qui sont, à mon avis, orthogonaux, mais évidemment, on est tenté de les croiser parce que on a toujours un peu de nostalgie d'une origine qui, enfin, se livrerait, se découvrirait presque à l'observation, et qui, du coup, éclairerait de façon joyeuse et positive si c'est quelqu'un de bien qui est à l'origine, ou de façon terrifiante si c'est un chaos sans cœur qui nous produit. Mais je regrette pour les auditeurs qui auraient soif d'une révélation, je pense que la question métaphysique d'où vient qu'il y a quelque chose, d'où vient qu'il y a un monde, n'est pas une question qui peut être résolue de façon scientifique. Ça ne veut pas dire qu'elle est inepte et que l'esprit humain est dépourvu de moyens de conjecturer et de discuter dans un débat rationnel, celui dans lequel des gens aussi distincts que Leibniz, Voltaire, Jefferson ou Sartre interviennent pour dire « j'ai des raisons d'affirmer que l'univers ne doit rien à personne et surtout pas à un dieu », et d'autres disant « j'ai des raisons, mais attention, des raisons non scientifiques, d'affirmer que l'univers est créé, doit son existence à un quelqu'un. » Alors quelqu'un, ensuite, et plus si affinité, se révèle-t-il, reste-t-il muet, le problème du mal nous oblige-t-il à renoncer, à admettre l'idée ou qu'il puisse y avoir quelqu'un derrière tout ça. Voilà des questions métaphysiques dont je doute fort que on puisse être équipé pour les résoudre scientifiquement.
Et ça me paraît assez convaincant, simplement l'amalgame continue d'être fait. Vous-même, vous avez écrit plusieurs centaines de pages sur l'idée de la création ex nihilo, l'idée que l'univers aurait pu être créé à partir de rien. Or, au motif que rien ne peut naître de rien, il me semble que cette question a été vite rangée dans le cimetière, oui, des hypothèses métaphysiques.
Bien entendu.
Or, vous montrez que non, c'est-à-dire que c'est une idée qui a une très longue histoire et sa relégation est le résultat d'une très longue évolution des idées.
Alors, justement, tant que l'on conçoit la création comme un processus physique, comme un passage, une transformation d'un néant en quelque chose, on va dans le mur. Et même pas le mur de Planck, hein, c'est carrément un mur d'absurdité. L'idée qui me semble intéressante métaphysiquement, et encore une fois qui n'a pas de pertinence scientifique, hein, c'est un, de considérer qu'on a le droit de se poser des questions métaphysiques, et que la question « pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien » est une question digne d'être posée. Et la deuxième idée intéressante, c'est de sortir du schéma cause-effet temporel, hein, pour se dire que la notion de la création, si création il y a, n'est pas une question de timing, question de durée, mais c'est une question de cause d'existence. C'est pas la même chose. Ou comme vous disiez, du fait qu'il y a un univers.
Une cause première.
Oui, cause première. Mais attention, quand on dit première, on imagine que la première est antérieure chronologiquement au seconde. Alors que si cause première elle y a, elle est dans une autre temporalité. La cause première, alors c'est une vieille réflexion qu'on trouve déjà chez Platon et Augustin et d'autres. Hein. Si cause première elle y a, elle est cause du temps lui-même. Elle n'est pas cause agissant dans le temps. Et on voit dans l'histoire de la pensée, pas simplement occidentale d'ailleurs, puisque dans les Upanishads, il y a déjà des réflexions sur l'antériorité logique et non chronologique d'un premier principe. Donc il est premier au sens d'une priorité logique et non pas d'une priorité chronologique. Si acte créateur il y a, c'est pas une fabrication, c'est pas une transformation d'un rien en quelque chose, c'est absurde. C'est plutôt une relation de dépendance. Alors, si vous allez chercher chez les penseurs comme Thomas d'Aquin, vous trouvez qu'il affirme nettement que la création de l'univers n'est pas un changement, n'est pas une opération transitoire, hein, mais c'est une relation. C'est la relation de dépendance de ce qui existe par rapport à ce qui fait que ça existe. Mais ce faire n'est pas une fabrication. Et on trouve alors des Platons, des Timée de Platon, des réflexions passionnantes. Il s'amuse à mettre en scène un démiurge qui contemple les solides parfaits qui sont au nombre de 5, et on peut démontrer qu'il n'y en a que 5 dans l'espace euclidien, et qui donc va se mettre à créer le monde, n'est-ce pas? Mais pour ce faire, il a besoin d'une matière.
D'un
matériau préalable, indéterminé. Voilà, cette fameuse Kora, cette espèce de champ, espace, énergie, mais non déterminé, il va l'informer, lui donner de l'information.
En essayant de copier le modèle des idées intelligibles.
Exactement. Mais Platon sait, et il ironise là-dessus, qu'au fond, si tel était vraiment le scénario de la création, c'est-à-dire un chaos, un magma, que un agent, un petit démon de maxwellien vient informer, il y aurait beaucoup de déchets. Et il dit, tiens, mais c'est curieux quand même que la matière incréé éternel, n'est-ce pas, se soit soumise à ce point, hein, à nos normes pythagoriciennes et à nos quantas et à notre géométrie. Et c'est une manière ironique de dire, bon, ça doit pas être ça, et sans doute, si je pose la question métaphysique de la dépendance de ce qui existe par rapport à un dieu, ce dieu est non seulement un organisateur, mais également un créateur ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Non pas à partir d'un néant qu'on prendrait pour une chose, une sorte de vie quantique avec déjà des caractéristiques, des propriétés, des dimensions. Mais créateur ex nihilo, ça veut dire qui n'a besoin de rien pour faire être. Mais encore une fois, ce faire être n'est pas de l'ordre de la fabrication. Et c'est ce qui rend la chose si métaphysique et si abstraite et éventuellement suspecte. Hein. Mais il y a une autre façon de poser la question. C'est celle que Maxwell évoquait dans les années 1870 en réfléchissant.
Le père des équations de Maxwell.
Voilà. En réfléchissant sur la régularité et le haut degré de précision avec lequel on découvrait, grâce à la spectroscopie à l'époque, que la lumière venant de ce qu'on appelait des nébuleuses extragalactiques, n'est-ce pas, semblait présenter des éléments chimiques ayant exactement la même composition. L'hydrogène, dit-il, est le même sur Sirius et sur Arcturus que sur notre planète. C'est curieux. Et du coup, on accède avec la spectroscopie à l'idée que la chimie n'est pas simplement une particularité locale, mais que aussi loin qu'on puisse voir dans l'univers, il y a cette même régularité. Et la question que pose Maxwell, et attention, c'est une question qui n'est plus une question scientifique, une question métaphysique, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'ordre en général? Et il insiste, je cite avec mon mauvais anglais, mais « Science is incompetent to reason upon creation of matter out of nothing. » La science n'est pas compétente pour raisonner sur la création de la matière à partir de rien. Et il dit, je fais une réflexion métaphysique, c'est à la fin de sa conférence de Bradford de 1873 sur les molécules, il dit au fond, si, de deux choses, ou bien je peux expliquer scientifiquement le fait qu'il y ait cette régularité des masses atomiques, etc., dans tout l'univers, ou bien je peux considérer, mais cette fois-ci je quitte la science et je pose une question métaphysique, hein, si je peux supposer que ces molécules et tous ces composants, alors que ce soit, maintenant on mettrait à jour, on dirait c'est des paquets réduits d'espace-temps matière, énergie ou des supercordes, ce que vous voulez, mais est-ce que je puisse supposer que tous ces éléments de réalité sont auto-existants? Et le raisonnement de Maxwell est passionnant parce que c'est un raisonnement par l'absurde. Il dit, supposons que l'univers, ou plus exactement les composants de l'univers, quels qu'ils soient, hein, on peut changer la liste, bon, sont auto-existants. Alors, il n'y a aucune raison qu'il y en ait deux qui se ressemblent. Et, alors, et surtout pas que, par exemple, tous les électrons aient la même masse et la même charge électrique. C'est ce que disait Richard Feynman, les électrons, quand vous en avez vu un, vous les avez vus tous. Bon, alors, c'est vrai, c'est pas vrai, je sais qu'il existe des principes d'exclusion, l'état...
Ils sont mais, pas au même endroit dans le même état quantique, voilà, mais d'accord. Ils ont la même structure.
Mais il y a quand même, on peut faire de l'électrodynamique électricité en pensant que la charge de l'électron, c'est ça, hein, un temps de Coulomb, et que sa masse, c'est bon. Eh bien, Maxwell dit, si tous les composants, les éléments de réalité, sous quelque forme qu'ils se présentent, étaient self-existent, auto-existant, il n'y aurait vraiment aucune raison qu'il y ait de telles collections qui permettent la loi d'Avogadro, etc. Bon. Et il dit, eh bien, puisque je ne peux pas concevoir, moi, en tant que métaphysicien, que la matière soit auto-existante, parce que si elle était auto-existante, elle devrait être totalement désordonnée, eh bien, j'ai une bonne raison, et c'est pas une raison déductive, hein, mais j'ai quand même une bonne raison d'affirmer qu'elle doit elle-même son existence à un créateur. C'est la conclusion de sa belle conférence de Watford. Mais encore une fois, et c'est là que ça me semble extrêmement important, il n'y a entre cette réflexion métaphysique et le progrès des sciences de la nature, des sciences physiques et de la cosmologie, il n'y a pas d'intersection. Car au fond, les prémices de Maxwell sont valables aussi bien à l'époque de Pythagore qu'à l'époque de Galilée. Il suffit d'avoir affaire à un monde dans lequel il y a un certain ordre. Est-ce que
votre façon de raisonner ne suppose pas que vous considérez que l'origine de l'univers est hors de l'univers ?
Bien sûr.
Donc elle est transcendante, et inaccessible, alors qu'on peut considérer que l'origine de l'univers fait partie de l'univers, auquel cas on peut espérer qu'elle pourrait rentrer dans l'escarcelle des scientifiques.
Bien sûr, mais dans ce cas-là, il faut distinguer entre commencement et origine, hein, et dire, nous, scientifiquement, on peut dire, on essaie de régresser un commencement, de déterminer des conditions initiales les plus initiales possibles. Et ce qu'on appellerait origine est non pas de l'ordre de la naissance comme processus, mais de la relation de dépendance. Et de la question métaphysique, qu'est-ce qui fait qu'il y a un univers ?
Alors, l'abélomètre, l'un des pères du Big Bang, avait été très clair sur cette distinction. Ouais. N'empêche que l'amalgame,
oui,
quand
alors,
même, est
justement, fait. Alors je me permets de sortir mon antisèche, parce que l'abélomètre a des déclarations tout à fait remarquables.
Hein, j'en ai une aussi.
Alors, on va faire un concours de citations. Il y en a, dans son article de 1927 et dans son article de 1931, il rappelle que si le monde commence avec un unique quantum d'énergie, alors les notions d'espace et de temps n'ont plus aucune signification à ce commencement, et du coup, on n'a pas d'origine au sens profond du terme. Mais c'est pas tellement ça que je voulais souligner, c'est que l'abélomètre considère que sa théorie de l'atome primitif, qu'on a surnommé ensuite le Big Bang, est un commencement naturel. Je cite, hein, « Une valeur nulle du rayon de l'espace introduit un commencement naturel. À partir de la valeur zéro du rayon, il n'y a de solution aux équations d'Einstein que dans un sens. On obtiendra donc un commencement naturel qui ne serait plus nécessaire de qualifier de création à partir de rien. » La question de la création ex nihilo est une autre question de savoir quel est le premier état auquel on peut accéder, ou l'un des premiers états de l'univers qu'on peut accepter. Je cite encore, c'est la conférence Univers et Atomes de 63, c'est l'année où je suis né, alors j'ai beaucoup d'affection pour cette année. On doit donc s'attendre à ce qu'au premier jour du monde, la matière avait une entropie bien plus faible et même, pourquoi pas, était condensée en un petit nombre, même en un seul paquet. On arrive encore à un commencement naturel, avec une évolution qui ne peut se faire que dans un sens, pour lequel le problème d'un pré-commencement n'a pas de sens, pour lequel le problème d'une création de rien est sans signification. Le problème de la création ex nihilo n'est pas un problème de physique. Si vous avez un commencement naturel qui explique tout le reste, ça suffit. Maintenant, ce commencement naturel, qu'est-ce qu'il explique ? Et là, il me semble que la candidature d'une origine transcendante est intéressante. Je cite encore le maître au congrès Solvay en 58. Une telle théorie, dit-il, reste entièrement en dehors de toute question métaphysique ou religieuse. Elle laisse le matérialiste libre de nier tout être transcendant. Il n'y a aucune pression, aucun forcing des théories de la singularité initiale ou du Big Bang ou autre sur la dépendance métaphysique de ce qui existe par rapport à un créateur. Il va même jusqu'à écrire en 63 toujours « L'hypothèse de l'atome primitif est l'antithèse de l'hypothèse d'une création surnaturelle ». Et ce, non pas par démagogie pour rester bien avec ses camarades scientifiques. Vous savez qu'Einstein l'avait plaisanté à plusieurs reprises en disant, écoutez,
votre physique est atroce.
Voilà, votre physique, vos calculs sont corrects, mais votre physique est atroce, elle suggère trop la création. Mais justement, et ce sera ma dernière citation, le problème de la création, dit le maître, garde tout son sens métaphysique dans le sens de la dépendance de tout être et de nous-mêmes. Ce problème est totalement dégagé de la cosmogonie, c'est-à-dire de la question de la genèse de l'univers ou de son origine au sens temporel. Mais ça, c'est une vieille question qui traverse toute l'histoire de la pensée. Mais dès les premiers commentateurs et traducteurs du Timée de Platon en latin distinguaient bien deux sens du terme origine, l'origine temporelle et l'origine causative. Origo temporalis, origo causativa. Et c'est ça la distinction.
Fondement premier entre, ou bien cause première.
Voilà, c'est ça la distinction entre cause transcendante métaphysique et antécédents, conditions antérieures, qui sont reliées moyennant des lois, des distributions stochastiques, tout ce que vous voulez, à des états qu'on observe et on fait des inférences de l'un à l'autre. Donc je trouve que cette question de la création ex nihilo, elle appartient, oui et non, à une conversation scientifique. Et vous disiez tout à l'heure, Étienne Klein, que dans cette émission, vous allez intéresser aussi à ce qui est autour de la science. Ben, je veux dire, oui, c'est autour. Je pense que l'intersection
c'est
est
même au-delà.
Quasi nulle. C'est autour ou au-delà, exactement.
C'était il y a très, très, très longtemps. En ce temps-là, il y avait le ciel. À droite du ciel, il y avait la planète Gibi. Elle était complètement plate et elle penchait soit d'un côté, soit de l'autre. À gauche du ciel, il y avait la planète Shadok. Elle n'avait pas de forme spéciale, ou plutôt elle changeait de forme. Au milieu du ciel, il y avait la Terre, qui était ronde et qui bougeait. Sur la Terre, il n'y avait apparemment rien. Sur la planète Gibi, il y avait des animaux qui s'appelaient les Gibis. Mais quand il y avait trop de Gibis d'un côté, la planète penchait, les Gibis glissaient, il y en avait qui tombaient. C'était très gênant, surtout pour les Gibis. Sur la planète Shadok, il y avait des Shadok de deux sortes. Des Shadok avec des pieds en bas, qui vivaient au-dessus de la planète, et des Shadok avec des pieds en haut qui vivaient de l'autre côté et qui servaient à soutenir la planète par en dessous. Mais ces Shadok-là n'avaient aucun sens de leur responsabilité et il arrivait même à certains d'aller se coucher, de sorte que quand ils étaient sur le dos, leurs pattes ne soutenaient plus rien du tout et la planète aussitôt se déformait. Alors il y avait des Shadok qui tombaient, c'était très gênant, surtout pour les Shadok.
Mais vous parlez comme si on était absolument certain que l'univers a eu une origine.
Non.
Même un commencement. Oui. La cosmologie contemporaine relativise ce qu'on a pu dire à propos du Big Bang. C'est-à-dire, quand on essaie de décrire le mur de Planck que vous avez évoqué, donc quand on essaie de marier la physique quantique qui décrit les forces nucléaires, les forces électromagnétiques, et puis la relativité d'Einstein qui décrit la gravitation, eh bien, le Big Bang change de statut. C'est-à-dire qu'il n'est plus une singularité explosive, mais une sorte de transition entre un univers d'avant et un univers d'après. De sorte que, aujourd'hui, nous n'avons pas la preuve scientifique que l'univers a eu un commencement, et nous n'avons pas la preuve scientifique qui n'en a pas eu. C'est une question ouverte.
Tout à fait.
Alors, qu'est-ce que...
Mais justement, la question de la création ex nihilo n'est pas une question d'âge de l'univers. Est-il fini ou indéfini? C'est la question de, est-ce qu'on doit expliquer ce qu'on a à expliquer, le fait même qu'il existe quelque chose. Alors ce qui est intéressant, c'est que parmi les philosophes et métaphysiciens, alors Simplicius, Plotin et d'autres, qui ont défendu la notion d'une création du monde, la plupart pensaient que le monde était éternel, qu'il n'avait pas de commencement chronologique.
Donc ce que vous voulez dire, si je comprends bien, c'est que la question « pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» se pose dans les mêmes termes que l'âge de l'univers soit fini ou infini.
Exactement. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'en plein XVIIe siècle, des gens comme Clarke, donc il est l'un des défenseurs de Newton,
le secrétaire de Newton,
et Leibniz qui est son challenger, si j'ose dire, eh bien sont d'accord sur ce point. Et Clark affirme ceci, c'est que la question entre l'athéisme métaphysique, je ne parle pas des questions confessionnelles et de leurs enjeux politiques, la question entre l'athéisme et le théisme, c'est pas de savoir si le monde est éternel ou pas, c'est s'il est self-existent, C'est la même formule que reprendra d'ailleurs Maxwell. Hein. Et on ignore parfois que Thomas d'Aquin lui-même considérait que le monde pouvait être éternel. Hein. Que le fait qu'il ait un commencement temporel, etc., ça c'était éventuellement une question de foi. Hein. Mais que, rationnellement, nous n'avons aucune prémisse qui permet d'affirmer que le monde a un commencement temporel. Et que néanmoins, ça ne supprime pas la question de sa dépendance métaphysique. Alors, il y a un philosophe, je reviens à Leibniz, qui, de façon extrêmement merveilleuse, a donné une très très belle parabole sur cette question. Il dit, imaginez que le monde, c'est comme un livre qu'on a recopié d'une édition sur l'autre. Seulement, ce livre, on ne le recopie pas, il n'a pas 4, 5, 10 éditions, comme la plupart des livres d'Étienne Klein. Je faillote.
N'exagérez pas.
Imaginons que ce livre est une infinité d'éditions, car ce livre décrit l'état de l'univers à chaque instant. Et à chaque fois qu'une armée de moines copistes recopie ce livre ou le réédite, eh bien, elle prend en compte l'état de l'univers précédent, puis les lois de changement, de transformation, les symétries, etc. Et elle reproduit le nouveau texte avec les révisions et les marques de révision. Leibniz dit ceci. Écoutez, ce livre pourrait avoir existé en une infinité d'éditions antérieures. Ça ne supprime pas la question de savoir qui a écrit le livre. La question de l'auteur de l'univers et de l'âge de l'univers sont des questions différentes. Et c'est parce que nous, êtres humains temporellement finis, considérons toujours que la causalité s'inscrit forcément dans le temps et que l'auteur existe avant son œuvre, hein, que nous avons du mal à concevoir qu'un univers puisse être éternel et néanmoins créé.
Alors, pour être sûr que je vous ai bien compris, je voudrais vous demander de réagir à cette citation de Wittgenstein, le philosophe, qui écrit ceci. Il est étrange que l'on dise de Dieu qu'il a créé le monde et non qu'on dise Dieu crée continuellement le monde. Pourquoi faudrait-il que le fait que le monde ait commencé à être soit un plus grand miracle que le fait d'avoir continué à être?
Eh bien,
pourquoi est-ce qu'on définit Dieu comme le créateur et non pas comme celui qui fait que ce qui est en permanence?
Oui. Alors, je veux pas faire de l'anglophilie excessive, mais les anglo-saxons ont une belle façon de définir conceptuellement un créateur, c'est « generating and sustaining cause of the universe ». C'est-à-dire pas simplement la chiquenaude initiale.
Il cumule les deux fonctions.
Voilà. Mais il cumule les deux fonctions, mais c'est la profondeur de la remarque de Wittgenstein, c'est la suivante, c'est qu'au fond, ça me paraît conceptuellement contradictoire de dire à l'instant T, Dieu fait exister je ne sais quoi, mais à l'instant T plus 1 ou T plus delta T, la chose en question se met à exister par elle-même. Il n'y a pas d'inertie existentielle, si vous voulez. Je n'imagine pas un principe d'inertie existentielle. Si une chose, dans un premier temps, ne doit pas son existence à elle-même, n'existe pas par elle-même, mais doit son existence à un autre, je ne vois pas comment elle pourrait acquérir, dans un second temps ou ultérieurement, la faculté d'exister par soi-même.
On peut survivre à ses parents.
Bien entendu, mais pas plus nos parents que nous n'existons par nous-mêmes. Ce sont des causes secondes et transitoires. Hein. C'est très profond, c'est vraiment l'idée que la question métaphysique de la création n'est pas une question de timing ni de durée, mais une question de self-existence. Est-ce que oui ou non, les objets, les réalités, les personnes auxquelles nous avons affaire existent par eux-mêmes ou existent sans cause ou doivent leur existence à quelque chose. Mais ce devoir son existence à quelque chose, encore une fois, c'est une question métaphysique. C'est pas un processus de fabrication ou de constitution par agrégat matériel ou par transformation.
Alors, quand les physiciens parlent de l'origine de l'univers, ils invoquent toujours des lois physiques ou des théories comme la mécanique quantique, la relativité générale, et ils supposent finalement que ces théories leur permettent d'envisager les premières phases de l'univers. Et donc, ils supposent que les lois physiques existaient avant l'univers lui-même. Donc, quel statut faut-il, d'après vous, qui êtes plutôt métaphysicien, accorder aux lois physiques? Est-ce qu'elles sont immanentes? Est-ce qu'elles sont transcendantes? Est-ce qu'elles étaient déjà là? Est-ce que l'univers est né dans un arsenal législatif qui lui a préexisté? Ou est-ce qu'elles sont créées par l'évolution même de l'univers au gré de ses besoins?
J'ai du mal avec l'idée qu'une loi soit créée par des choses. C'est-à-dire que, ou bien la loi décrit le comportement le plus fréquent, le comportement statistiquement pertinent d'un certain nombre d'entités. Dans ce cas-là, la loi exprime des actions, des interactions. La loi, c'est une métaphore assez étonnante, cette loi, parce que les choses sont ce qu'elles sont et font ce qu'elles font, qu'il s'agisse encore une fois de particules, de champs, etc. L'idée que le monde obéirait à des lois est assez étrange. C'est une métaphore politique. Ça veut dire que les lois de la nature nous disent comment les choses se passent, ou, parfois elles ne nous disent pas comment les choses se passent, elles modélisent la façon dont les choses pourraient se passer pour donner lieu aux observations que nous faisons. Hein. Mais je pense qu'il faut arrêter de sacraliser la loi, d'en faire une sorte de données en physique. Hein,
non, mais pour le coup, on a une question métaphysique, nous les physiciens. On suppose que l'univers a eu un commencement, les deux premiers électrons sont apparus. Comment ont-ils su, entre guillemets, qu'ils devaient se repousser en vertu des lois de Coulomb ?
Moi, je dirais, j'ai plutôt une conception empiriste de la loi. Je dirais pas que les objets obéissent à des lois, parce que pour obéir, il faut avoir une volonté, ou du moins, il faut qu'il y ait un agent qui vous pousse, des forces de l'ordre qui vous obligent.
La loi.
Il faut connaître la loi. Ça m'étonnerait qu'un électron, je suis prêt à lui prêter une âme, quoique j'ai du mal avec cette idée, se dise, tiens, alors je dois m'attirer et me repousser en fonction inverse du produit des charges et en fonction directe des distances ou le contraire. Bon, j'ai du mal. Je pense que la loi, et on devrait avoir une conception un peu plus modeste de ce que c'est qu'une loi de la nature, et une loi physique en particulier, à savoir, c'est la description au moyen d'un appareil mathématique de la manière dont, pour autant qu'on ait pu voir jusqu'ici, les choses se passent. Et pour revenir à votre question, savoir si les lois existaient avant les phases de l'univers, bah, j'avoue que j'en sais rien, je n'y étais pas, et je défie quiconque de pouvoir se prononcer sur cette question. Qu'est-ce que ça veut dire, des lois qui régiraient un univers non existant ? Dans une loi, on fait intervenir, il y a des formules, des relations, et puis des variables.
Hein. Alors, la théorie des supercordes, qui justement ambitionne de décrire ce qui s'est passé avant le mur de Planck, se décline en un très grand nombre de théories qui chacune pourrait s'appliquer à un univers différent.
Alors,
c'est ce qu'on appelle la théorie des multivers. Donc, on pourrait avoir des théories qui décrivent d'autres univers que le nôtre.
Bien entendu. Mais elles décrivent encore une réalité. Alors, je sais que dans la prospection à la suite de Lise Molin et d'autres auteurs sur le multivers ou les multivers, on entre dans un domaine très, très spéculatif. Eh bien, tant mieux, soyons libéraux, accordons une pertinence à tous ces modèles, en vérifiant qu'ils aient une pertinence prédictive ou explicative. Mais tout ça n'explique pas le fait qu'il y ait des objets ou des variables régis par ces lois. Mais encore une fois, moi, j'ai plutôt une conception empiriste, et de dire, les lois, c'est nous qui relions, c'est la composition assez positiviste de Auguste Comte. Il y a des régularités, mais on finit par leur donner le nom de loi. Enfin, bon, c'est pas une loi au sens d'une disposition réglementaire.
C'est pas des lois qui permettent de décrire les phénomènes tels qu'on les observe, c'est aussi des lois qui, lorsqu'on les travaille un petit peu, quand on essaie de penser ce qu'elles impliquent, conduisent parfois à prédire l'existence de nouvelles sortes d'objets physiques.
Oui.
L'exemple le plus récent, c'est le boson de Higgs, qui a été prédit il y a 48 ans, 50 ans même, découvert 48 ans plus tard, et c'est à partir de réflexions sur les lois physiques que son existence a pu être à la fois prédite et définie.
Bien sûr.
Donc les lois ont quand même
une grande
le pouvoir
pertinence.
D'agir comme une sorte de treuil ontologique et faire advenir des éléments de réalité que nous n'avions pas vus.
Disons que je leur prêterai pas un pouvoir d'agir. Je dirais la connaissance de loi, la détermination de loi, la recherche de lois d'interaction entrant en ligne de compte dans le mécanisme de Higgs, eh bien, ont une forte valeur prédictive et c'est ce qui leur donne leur légitimité. Mais de là à en faire des êtres surnaturels qui commandent l'existence même de l'univers, là, je crois qu'on confond ce qui est un instrument de recherche, de prédiction et d'explication avec ce, et donc qui a sa place scientifiquement, avec ce que serait une explication ultime, et qui est une question métaphysique. Mais peut-être qu'il n'y a pas d'explication ultime. Peut-être que nous ne sommes pas armés, nous sommes trop gourmands en voulant répondre à la question « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?»
France Culture, la conversation scientifique.
Étienne Klein.
Pour être franc avec vous, lorsque je vous ai invité, j'ai pensé que nous parlerions de la question du néant, puisque la création ex nihilo, c'est l'idée que l'absence de toute chose, le néant, qui n'est rien, qui ne contient rien, est capable, par je ne sais quel mécanisme, d'engendrer l'existence de quelque chose.
Ouais.
Mais je comprends à vous écouter que le néant, c'est pas la question. C'est-à-dire que la question de l'origine, c'est pas simplement de penser comment l'absence de toute chose peut devenir quelque chose, c'est interroger la cause même de l'être.
Voilà. Parce que sur la question de la création ex nihilo, vous savez, il y a deux interprétations. Il y a une première interprétation qui a un grand succès d'ailleurs aussi au niveau mystique et spirituel, qui est de dire le néant, c'est la substance dont nous sommes faites, car nous sommes néant, nous sommes poussière, etc.
Bon,
mais c'est très métaphorique. C'est très métaphorique. Le néant au sens propre du terme, c'est rien du tout. Hein. Et par conséquent, la création ex nihilo, c'est pas la création à partir du néant, mais c'est le fait de ne pas créer à partir de quelque chose. Alors, si on voulait faire du latin, on dira pas, c'est pas une creatio ex non aliquo, création à partir du non quelque chose, qui serait le néant, mais c'est une création non ex aliquo, non à partir de quelque chose. Et c'est pour ça que des gens comme Voltaire, Jefferson, Maxwell, Plotin, etc., ne raisonnent pas directement, mais indirectement, en disant, si les choses étaient capables de se tirer elles-mêmes du néant, alors il n'y aurait aucune raison qu'il y ait deux qui se ressemblent.
Et du coup, donc, le néant ne serait plus un néant.
Oui, bien sûr, bien entendu. Dès lors qu'on prête des propriétés au néant, dès lors qu'on en fait le théâtre, le décor, l'espace d'un surgissement, ce n'est plus un néant. Et oui, du coup, c'est pour ça que j'ai peu de choses à dire sur le néant.
Bergson disait, je crois, le néant est une idée destructrice d'elle-même. C'est-à-dire, dès qu'on se met à le penser, il devient quelque chose qu'il ne peut pas être. Sans entrer en contradiction avec lui-même.
Ouais. Alors, Malebranche disait déjà, toute pensée du néant n'est qu'un néant de pensée. Mais malgré cette formule, la condamnation de la métaphysique et des questions métaphysiques par Carnap et le cercle de Vienne à partir des années 20-30 tient aussi à l'abus qu'ont fait certains philosophes du néant. Alors, Carnap s'en prenait à Heidegger, il donne des propriétés au néant, il affirme que le néant néantise, qu'il ouvre une brèche d'angoisse et de délaissement nous-mêmes, etc. Ce sont des métaphores. La métaphysique dit n'importe quoi. Elle exprime un sentiment de la vie. Les métaphysiciens sont des musiciens sans talent musical. Donc, faites-les taire. Et c'est ce qui a donné lieu à ce remarquable mouvement du nouveau positivisme et du physicalisme qui a essayé de bouter hors de l'université, finalement, les questions métaphysiques. Mais Carnap, le premier, avec une très grande loyauté, s'est aperçu que si on supprimait, non pas les réflexions sur le néant, je ne suis pas nostalgique, mais si on supprimait les questions de l'universalité des lois de la nature, la question des dispositions, de la possibilité des modalités, hein, si on se réduisait uniquement à ce qui est strictement observable, soit un protocole d'observation purement empirique, alors il n'y avait plus de science. Personne n'est allé vérifier que chaque masse attire et repousse.
Donc la science, masses, la physique notamment, s'appuie sur une base métaphysique.
Elle a des présupposés métaphysiques, comme par exemple l'existence d'un monde extérieur, la possibilité pour les objets d'avoir une action, une interaction. Il y a toute une architecture métaphysique qui est intéressante, mais qui ne donne que les soubassements et qui n'interfère pas ou peu avec les résultats des sciences physiques.
Mais elle est implicite.
Elle est implicite. Et inversement, ce que les sciences physiques découvrent enrichissent le répertoire des métaphysiciens. Pendant longtemps, les métaphysiciens ont considéré qu'une action ne pouvait pas avoir lieu à distance, qu'il fallait toujours qu'il y ait contact, hein, et qu'une chose était là où elle agit. Bon, il semble que les théories du champ, etc., font que... Mais pas tout le monde, hein. Cohen Tanuji disait que lui, il acceptait pas l'action à distance. Pour lui, la gravitation, il y avait forcément un contact quelque part.
Un champ.
Mmh. Hein. Mais enfin, le champ, c'est une réalité, déjà, si j'ose dire, un peu métaphysique. Il y a ça propagation d'un signal sans transport de matière, donc c'est spécial. Ceci pour dire que l'enrichissement des modèles et des manières de décrire la réalité en provenance des sciences physiques, élargit le répertoire des intuitions métaphysiques.
Mais est-ce que ça veut dire qu'on peut dire que la métaphysique fait des progrès dans son propre champ, soit parce qu'elle est poussée par la physique, soit parce qu'elle-même progresse à partir d'arguments qui sont les siens?
Je pense que les seuls progrès que peut faire la métaphysique, ce sont des progrès en modestie. C'est-à-dire que elle doit reconnaître que les questions qu'elle a en charge, y a-t-il du vrai, du faux, du bien, du mal, l'homme est-il libre, Dieu existe-t-il, etc., sont des questions qu'elle doit traiter avec toujours plus de prudence et sans instrumentaliser les savoirs positifs et notamment les sciences de la nature.
Pour terminer, Paul Clavier, je voudrais qu'on fasse un petit pas de côté et qu'on interroge, à propos de la question que nous avons posée, celle de la création de l'univers, ce que dit et ce qu'en dit la philosophie chinoise. François Julien, un sinologue bien connu, a écrit un livre en 89 intitulé « Process ou création, une introduction à la pensée des lettrés chinois ». Et si je vous livre trois petits courts extraits de cet ouvrage, ça me permettrait d'avoir votre réaction sur cette philosophie-là. Premier extrait, il n'y a jamais eu un moment ou un existant qui puisse servir de point de départ du processus. de sorte que tout le reste en soit la suite. Ce que nous instituons comme point de départ n'est toujours qu'une commodité de la civilisation et n'a d'autre valeur qu'arbitraire, qu'il s'agisse du premier jour de l'année pour le décompte du temps ou du choix du printemps par rapport aux saisons. Deuxième extrait, en amont comme en aval de lui-même, le cours du process n'a pas d'extrémité possible. Troisième extrait, on ne peut reconnaître un process que dans la mesure où il est en train d'être en process. Il n'y a de process qu'en process. Et la notion même de process dissout la question de l'origine. Autrement dit, il y a des systèmes de pensée qui n'ont pas abordé la question de l'origine, qui l'ont dissoute en quelque sorte, en considérant que toujours il y a eu quelque chose.
Si on s'intéresse uniquement au process, c'est-à-dire aux causes secondes, aux conditions initiales, aux circonstances, aux institutions qui sont en place, etc., effectivement, la question de la création ne se pose pas. C'est une question ultime. Quant à savoir si cette question de la création est une obsession occidentale, je crois que non. Alors, Leibniz a fait une tentative au XVIIe siècle de montrer que les notions de qi et de li dans la pensée chinoise étaient l'équivalent de cause première et état du monde second. En Inde, dans les Upanishads et dans le Rig Veda, c'est évident qu'il y a une question, au moins une question de la création. Chez les Indiens Pima de l'Arizona centrale, du désert de l'Arizona centrale, la question se trouve aussi. On a dans l'Égypte ancienne, le mythe de Khepri, la création, à Babylone aussi. Je ne dirais pas que c'est une constante universelle, et comme le souligne très bien François Julien, il est possible, on peut s'armer pour refuser les questions métaphysiques. C'est ce que, de façon tout à fait loyale, Karl Marx faisait dans son ébauche sur l'économie politique, en disant que la question d'un être transcendant, je ne la pose pas parce qu'elle n'est pas sociale. Elle n'est pas traitable dans avec les paramètres de la production de l'existence humaine en fonction des rapports de force historiques, etc. Donc je ne la pose pas. Elle suppose que le monde n'existe pas et doit son existence, je ne la pose pas. C'est une question qui est socialement impossible.
Est-ce que pour faire la
mais je pense qu'on a le droit de la poser quand même.
Mais est-ce que pour faire la métaphysique, il ne faut pas supposer qu'il y a deux mondes, en fait, un monde empirique dans lequel nous sommes, et puis un monde des idées, un monde ailleurs qui permet de le comprendre ou de le fonder.
Oui, mais ce n'est pas une supposition entièrement gratuite. Et je reprends cette hypothèse faite aussi bien par Eusèbe de Césarée que par Voltaire, que par Francis Bacon, que par Maxwell. C'est bon, d'accord, acceptons qu'il n'y ait qu'un monde et que ce monde auto-existe. Ça pose des problèmes. Donc, on peut avoir des raisons qui ne sont pas des raisons déductives, encore une fois, mais on peut avoir de bonnes raisons de dire, vous, l'hypothèse métaphysique selon laquelle ce monde devrait son existence à un autre n'est pas nulle. Et alors, en plus, elle a une vertu politique. Parce que, puisqu'on est dans les à-côtés, je dirais que les droits de l'homme se défendent, se fondent bien mieux, se fondent et se défendent bien mieux dans une hypothèse théiste, où effectivement l'être humain ne décide pas à la majorité des voix qui il est, qui il peut tuer, qui il ne peut pas tuer, mais où l'humanité dans sa totalité doit son existence ainsi que l'univers à un être suprême. Et l'idée de devoir éthique, c'est ce que disaient d'ailleurs les pères fondateurs de la Troisième République, c'est pas confessionnel. On enseignait dans les manuels de la Troisième République que nous avons des devoirs envers Dieu, envers les hommes et envers les animaux. Parce que si nous devons l'existence à quelqu'un, et non pas à un processus aveugle, alors nous avons des raisons de respecter tous les débiteurs de cette dette qu'est la création. Alors, je ne prétends pas que l'athée soit forcément un affreux exterminateur. L'histoire a montré qu'on peut être croyant et très méchant aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la justification, il n'est pas inepte de poser la question métaphysique d'un créateur. C'est pas pour se perdre dans les nuages. C'est peut-être un bon garant du respect inconditionnel que les créatures se doivent les unes aux autres. Et j'ajouterais que le fameux humaniste biologiste Jean Rostand disait « Tout homme est mon frère tant qu'il n'a pas parlé ». Et si on ajoute que, outre nos paroles et nos intérêts, nous avons des raisons d'affirmer que notre existence, nous la tenons de quelqu'un, et que nous ne la donnons pas à nous-mêmes, nous ne sommes pas des self-made men ou des self-made women, eh bien, ça donne une raison supplémentaire de respecter de façon inconditionnelle la vie d'autrui. Et autrement dit, les religions théistes ne sont pas forcément les appuis les plus certains d'une destruction d'une partie de l'humanité par l'autre.
Bon, c'est sur cet habile plaidoyer en faveur de la transcendance que nous allons conclure. Paul Clavier, merci à vous pour tous ces éclairages.
Merci Étienne.
C'était La Conversation Scientifique, une émission proposée par Étienne Klein, à la coordination Catherine Madure, à la technique Cédric Châtelus et à la réalisation François Connac. Thank you. Tout de suite, la boîte à lettres de Cécile Guilbert, puis vous retrouverez Culture Musique par